La justice à l'œil, le droit saisi par le cinéma. Un podcast présenté par Magali Flores-Longeau.
Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes toujours en compagnie de Diane Bracco et d'Arnaud Duprat. Bonjour Diane.
Bonjour.
Bonjour Arnaud.
Bonjour.
Autour de leur ouvrage publié aux éditions universitaires de Dijon, consacré au film des Torrescola, une journée particulière, et de la dernière mise en scène pendant l'année 2023 de L'île au bord, donc en pièce de théâtre qui a été créée en Suisse et ensuite jouée au Théâtre de l'Atelier à Paris. Nous avons évoqué ce jeu qu'il y a entre le film, son scénario, sa création, son adaptation en pièce de théâtre. Si nous revenons au duo d'acteurs, le fameux acteur Marcello Mastroianni et Sophia Loren, pourquoi ce choix du côté du cinéaste, Diane?
Alors, pourquoi ce choix Donc, ce sont deux monstres sacrés du cinéma italien qui ont été consacrés, entre autres, pas uniquement, mais entre autres, par la grande comédie à l'italienne, qui sont associés dans l'imaginaire collectif à des rôles marquants. Alors, tous les deux, ils ont déjà joué dans Dommage que tu sois une canaille, par exemple, Mariage à l'italienne, Hier, aujourd'hui et demain. Bon, des rôles plutôt comique, hein, donc dans cette tradition-là. Et en 1977, on est dans un contexte marqué par le début de ce grand cinéma italien, où petit à petit commencent à se profiler les évolutions médiatiques du pré-berlusconisme, hein. Les années 80 vont être une période de traversée du désert pour le cinéma italien, où la grande comédie va se dissoudre en de multiples produits commerciaux, comédies mineures. Et à ce moment-là, Ettore Scola fait appel donc à ces deux monstres sacrés dont il va prendre l'image à contre-courant d'une certaine manière. Il va fissurer l'image de beauté incendiaire souvent associée à Sophia Loren, celle de la teen lover à l'italienne associée à Mastroianni, pour camper ces deux personnages, hein, que nous avons évoqués dans le précédent épisode, celui d'une mère, d'une femme au foyer, d'une mère de famille épuisée par le labeur quotidien à l'époque du fascisme, qui porte dans sa chair les stigmates de cette souffrance quotidienne. Et de l'autre côté, Marcello Mastroianni, qui incarne un homosexuel, un intellectuel homosexuel, donc exclu, marginalisé par cette société italienne fasciste. Donc deux rôles qui prennent le contre-pied des figures qu'ils ont pu incarner précédemment à l'écran.
Est-ce que du côté de Marcello Mastroianni, le choix et la réponse positive a été facile pour interpréter ce rôle, Arnaud?
Alors, la réponse de Mastroianni, je ne la connais pas, mais il avait déjà tourné avec Ettore Scola, c'est-à-dire que c'était un comédien que Ettore Scola connaissait bien, avec lequel il s'entendait très bien. Et Ettore Scola, dans son entretien accordé à Jean Gilly, dit que pour lui, c'était tout de suite une évidence de proposer ce rôle à Mastroianni. Alors effectivement, Mastroianni, il représentait comme ça cette image de la teen lover, d'homme à femme, entre guillemets, qui était évidemment intéressant de subvertir cette image à travers ce personnage-là. Et en même temps, c'était pas, il ne cassait pas radicalement son image, puisqu'il y avait eu certains rôles auparavant où il avait déjà écorné un peu cette image-là. On peut penser au Bel Antonio, notamment. Donc voilà, il y avait une certaine cohérence tant du côté de l'évolution du travail de Mastroianni à l'écran comme du côté de la collaboration de Scola avec Mastroianni qui faisait que c'était effectivement l'acteur idéal pour ce rôle.
Et du côté de Sophia Loren, est-ce que c'était évident ce rôle-là?
Alors, je vais peut-être laisser la parole à Arnaud qui a travaillé réellement sur la persona cinématographique de Sophia Loren et qui est le plus grand spécialiste de la question.
Alors, le plus grand spécialiste, je ne sais pas, mais je vais essayer de répondre à la question.
Dans le studio, tout au moins.
Voilà.
Tu seras plus exact que moi.
Alors là, pour le coup, Ettore Scola n'était pas convaincu au départ par par l'option Sophia Loren. Bon, le film est produit par son époux, Carlo Ponti, donc on peut imaginer qu'effectivement, dès le départ, au niveau de la production, il a dû y avoir des pressions pour que ce soit Sophia Loren qui ait le rôle. Mais en même temps, Ettore Scola raconte que quand il l'a rencontrée, il a vu une femme assez différente de l'image qu'il avait d'elle à travers les films. Et donc du coup, il a considéré que effectivement, ça pouvait être une bonne idée de lui confier son rôle. Alors là, encore une fois, ça fonctionne un petit peu comme avec Mastroianni, c'est-à-dire que il y a la subversion de l'image de la star, d'autant plus que bon, elle avait beaucoup travaillé à Hollywood, donc cette idée de la star glamour, etc., qui crée un décalage assez...
Ah oui, parce que là, le vestiaire n'a pas été cher en termes
voilà,
de production.
Voilà. donc voilà, il y avait une subversion totale de cette image à glamour qui n'est pas du tout l'image d'Antonietta. Et en même temps, il n'y avait pas non plus une rupture radicale, puisque auparavant, elle avait déjà joué. Bon, Diane tout à l'heure citait Hier, aujourd'hui et demain. Là, on l'a déjà. Bon, alors, dans un registre comique, mais elle est déjà mère de famille, d'une classe populaire, avec les enfants autour d'elle, elle leur hurle dessus, bon, etc. Donc c'est, l'image qu'on a d'elle au début d'une journée particulière n'est pas une image non plus radicalement différente de ce qu'elle a pu faire, notamment dans ses films italiens précédents avec De Sica.
D'accord. C'est d'abord une actrice de De Sica.
Oui, elle a travaillé avec lui, bah, elle a collaboré sur 14 films avec lui. Que ce soit dans le rapport cinéaste-actrice ou soit dans le rapport acteur-actrice, puisqu'il a joué avec elle sous la direction d'autres cinéastes. Mais en totalité, c'est 14 films.
Et avec Scola, elle a souvent, par la suite, tourné ou pas
non,
du tout ?
Qu'une seule fois.
Une seule fois, d'accord. Et il y a eu un désir de part et d'autre de rejouer ensemble ? Enfin, sous la direction de l'un
Alors, officiellement, non. Peut-être qu'il y a eu des projets évoqués à certains moments, mais en tous les cas, non.
D'accord. Et dans la dernière mise en scène de théâtre, donc celle de Lillo Bor, est-ce que le choix des deux comédiens, Laetitia Casta et Roche Dizem, a été une évidence ?
Alors, ce sont les productrices hein, qui ont proposé les noms de Laetitia Casta et de Roche Dizem à Lillo Bor. Et Lillo Bor, lorsque nous l'avons interviewé, rapporte que une certaine évidence est née au moment de sa rencontre avec Laetitia Casta. Elles ont finalement beaucoup parlé de sujets finalement assez universels et pas uniquement de théâtre. Et Lillo Bor connaissait déjà Roche Dizem par d'autres biais. Et bon, il semblerait qu'une étincelle se soit produite entre les deux comédiens. Comme je le disais tout à l'heure, lors du précédent épisode, Lillo Bor avait dissuadé les comédiens de revoir le film. Or, ils ont souhaité revoir le film parce que je pense qu'il pour des comédiens, il est très difficile de s'affranchir totalement du modèle incarné par des acteurs de la trempe de Sophia Loren et de Marcello Mastroianni. Laetitia Casta souligne, disons, une certaine connexion avec Sophia Loren en ce qu'elle est elle-même de culture méditerranéenne et que le personnage incarne une certaine féminité qui l'inspirait. Elle met aussi en lien tout le discours sur la condition féminine véhiculé par le personnage de Sophia Loren avec le présent des femmes. Donc il y a aussi comme ça ce regard entre l'époque représentée dans le film et notre époque actuelle. Et finalement, ce discours sur la condition des femmes reste reste d'actualité et c'est quelque chose qui semble avoir touché Laetitia Casta. Et du côté de Roche Dizem, ce qui est intéressant, c'est que dans notre imaginaire de spectateur français, il est toujours associé à des rôles assez virils, d'hommes forts, d'hommes durs, et le fait d'incarner Gabriele lui a permis peut-être d'aborder un type de personnage très différent de ses incarnations habituelles et bon, il semblerait que ça l'ait conduit à explorer d'autres possibilités en termes d'interprétation.
Oui, et d'ailleurs, de la même façon que de son côté à elle, il y avait une admiration pour Sophia Loren, de son côté à lui aussi,
bien
il y
sûr,
avait une admiration aussi pour Mastroianni, notamment qu'il l'a connue.
Oui.
Il est ami avec sa fille Chiara Mastroianni, et donc apparemment, il l'aurait connue dans sa jeunesse. Donc, il y avait aussi ce lien très fort avec les acteurs du film.
Oui, je reviens sur. On l'a connu, effectivement. Première partie de sa carrière, c'est d'abord, oui, un homme viril, mais ces dernières années, je pense au film de Desplechin, il a déconstruit ce rôle d'un acteur qui ne peut incarner que des hommes virils, sur deux.
Peut-être qu'il a souhaité explorer davantage cette facette-là. En tout cas, c'est de cette manière qu'il nous l'a présenté. C'était, même L'île au bord avait en tête plutôt ces représentations-là. Et donc là, au moment de la préparation de la pièce, l'a encouragé aussi à... Ils ont beaucoup travaillé à partir de l'improvisation. Elle l'a vraiment incité à travailler cette facette fragile, si je puis dire, de sa personnalité, ou en tout cas explorer cette facette-là dans son interprétation. Et donc c'était pour lui, semble-t-il, un défi nouveau, et au théâtre en plus, parce que c'est plutôt un acteur de cinéma.
C'est un acteur de cinéma, ouais. Oui. Et là, sur le passage au théâtre, est-ce qu'il y a une crainte de la part des acteurs? Parce qu'on parlait de Jacques Weber dans l'épisode précédent, mais effectivement, Jacques Weber, on l'a connu au théâtre, on le connaît toujours au théâtre, puisqu'il joue encore, on le connaît au cinéma, donc cette idée de passerelle est évidente pour lui, mais dans le cas de Roche Dizem, est-ce qu'il avait déjà eu l'occasion de se produire sur les planches?
Alors, il me semble qu'il avait eu une expérience théâtrale.
Oui. Alors là, pareil, j'ai pas le souvenir des pièces, mais il avait déjà fait un peu de théâtre. Mais effectivement, c'est plus un acteur de cinéma, évidemment.
Voilà. Ouais. Alors que Laetitia Casta, elle s'y a donné ces dernières années, me semble-t-il.
Oui, je ne saurais pas.
Mais c'est, avec Laetitia Casta, ce qui s'est passé, c'est qu'elle avait juste avant incarné un personnage très fort à travers de Clara Askill. Et qu'elle a joué pendant sur plus d'une année dans plusieurs théâtres et c'était effectivement un alors je pense, je veux pas interpréter non plus ou me placer à la place des parler à la place des gens, mais il y avait le désir aussi de se confronter tout de suite très certainement à un autre personnage féminin important, très fort, une figure féminine importante.
On va peut-être écouter un extrait du film de Scola.
Beh, arrivederci. Ma che fate? Invece di scendere, salite?
Sì, passo dalle fontane, così evito la portiera.
Fate come vi pare. Me lo dovevate dire subito come la pensavate.
Eh?
Me lo dovevate dire subito come la pensavate.
Su che?
Su lui. Sugli albi di fotografie.
E cosa cambiava?
Cambiava. Che non vi faceva entrare in casa mia, ecco che cambiava.
Ma di che ha paura? Lei è così sicura delle sue idee?
Sì, signore. No, quella roba non è mia. Però non mi va di discutere con uno come voi, che critica tutto, prende in giro tutto. Voi scherzate sempre sulle cose che non c'è niente da ridere.
No, guardi, io non rido sempre. Veramente non ho motivi per ridere. Lei piuttosto perché non ride, eh? Le cose le vanno bene come vanno. Ha una casa, un marito, sei figli. Ma perché non ride?
Eppure questo fatto del lei, lo sapete che è proibito, no? Che è obbligatorio darsi del voi. Niente, pare che lo fate apposta da stamattina, lei. Ma perché mi date del lei? Lei è contenta, lei è sicura delle sue idee. Ve ne siete andato? Meglio così. Però potevo pure salutare.
Oh, belle bimbe innamorate, no, tarancin comprate, ma il magico dire? Sapore. D'accordo,
lasciate.
Basta con il lei, da questo momento ti darò per tu.
Questo è troppo
alto. Hai visto che stai ridendo finalmente?
Sto ridendo.
Ah, peccato, perché secondo me quando ridi sei molto più bella.
Una volta, forse.
Pace.
Pace.
L'azzurro cielo nel fulgore del suo sole primaverile e solcato dalle grandi aquile dal cuore d'acciaio, arcobalenanti di tricolore, dirottate dai nostri piloti sulla via delle stelle verso i confini del mondo.
Banale scherzo finito tragicamente. Hai visto che mi ha graffiato? Guarda.
Ben vista.
C'è
che mi sono scocciata dei vostri scherzi, chiamiamoli così.
Decorati come venti che non hanno mai dato di fronte al piombo e all'acciaio.
Io non lo so che vi siete messo in testa, ma vi state sbagliando, questo è certo. E senza che fate quella faccia avete capito benissimo.
Antonietta, io non avevo, ti assicuro, nessuna intenzione.
No, ma che? Ma avete abbracciato per combinazione. Voi uomini siete tutti uguali. Ma io me l'aspettavo. Da stamattina.
Te l'aspettavi? Da me?
Primi tre moschettieri. Poi il caffè. Certo che nel vostro ambiente deve essere diverso. No, lasciate che faccio da sola.
No, no, anche a casa aiutavo sempre.
Attrici, cantanti, annunciatrici. Apposta vi siete fatto mettere il telefono.
Vien fatto di pensare alla scossa che il contatto di questa nuova città, crogiolo di tanta storia, darà al genio mistico e meditativo del cancelliere del Reich.
Andate. Andatevene, per favore. Vi ho detto per favore. Ve ne dovete andare. Prima, quando mi avete abbracciato, ce l'avevo più con me che con voi. Perché? Perché da stamattina che vi guardo. Te ne devi andare, hai capito? Io non so neppure. Mai, mai, mi devi credere. È la prima volta. La prima. Dimmi tu, Gabriele. Ti prego, dimmi. È importante. Gabriele. Gabriele.
Alors, Arnaud, est-ce que vous pouvez nous parler de cet extrait, le situer dans le film ?
C'est une scène qui se situe à peu près vers le milieu du film. C'est une scène particulière, dans la mesure où c'est une des rares scènes en extérieur, sur la terrasse de l'immeuble, au milieu du linge qui est en train de sécher. Et c'est la scène, d'une certaine façon, où les masques tombent, puisque c'est la scène où Gabriele va être amené, enfin va devoir reconnaître son homosexualité auprès du personnage de Sophia Loren.
Oui, mais là, dans cet extrait, on n'en est pas encore tout à fait là. On
oui, c'est l'autre ce qui arrive masque. Après. Oui.
C'est l'autre masque qui tombe. Diane, vous pouvez peut-être nous en dire quelques mots.
Oui, alors on entend effectivement tout le dialogue Sophia Loren au début qui rabroue un peu Gabriele et sur ses usages, notamment linguistiques, l'usage du lei au lieu du voi en italien. Et elle finit par révéler le masque qu'elle fait tomber, c'est celui de son attraction, de son attirance pour Gabriele. Et c'est ce qui va mener à ce que tu viens de dire, Arnaud, à la révélation de Gabriele qui dit mais tu es. Parce qu'elle lui dit mais je vois bien depuis ce matin. Ta manière de me regarder et ma manière de te regarder. Et c'est là où on découvre par la suite, effectivement, que Gabriele est homosexuel.
Comment vous trouvez le jeu des deux acteurs là, dans cette séquence, là, ce dialogue et la façon avec laquelle ils l'interprètent l'un et l'autre ? Sophia Loren, comment vous la trouvez en tant qu'interprète ?
Jugement de valeur ici à porter. On voit une évolution de l'interprétation au fil de la scène, justement entre le masque qu'elle maintient au départ et puis petit à petit elle se laisse aller à son désir, en tout cas à l'expression de son désir. Il y a aussi toute la mise en scène, le jeu avec les draps donc sur cette terrasse et celui extérieur. Et d'ailleurs ce motif des draps, il est fondamental, il est iconique si je puis dire dans le film, puisque c'est un élément d'ailleurs qui a été repris dans les adaptations théâtrales. L'île au bord l'a conservé également, et puis dans d'autres adaptations il a également été intégré de différentes manières, mais il permet aussi tout ce jeu gestuel des personnages, cette danse amoureuse ou pseudo-amoureuse qui se met en place entre eux. Et c'est l'un des éléments aussi qui fait tout l'intérêt, toute la beauté de cette scène.
Oui, parce que les draps permettent d'occulter.
C'est ce que j'allais dire, un jeu de voilà, de dévoilement littéral, bien sûr, hein, couvrir, découvrir, absolument. Oui, il y a aussi un, disons, une portée métaphorique du drap dans cette, et puis même dans un second degré, on pourrait pourquoi pas l'assimiler aussi à l'écran blanc de la toile de cinéma. On pourrait aller jusque là aussi, ouais. Mais en tout cas, c'est un élément de mise en scène très intéressant.
Arnaud, quelque chose à rajouter ?
Non. Non, c'était très complet.
Je trouve que cette scène fait écho à la première visite d'Antonietta dans l'appartement de Marcello, de Gabriele, quand elle va chercher son ménate, où il lui impose d'esquisser quelques pas de danse.
Oui.
Et là, à nouveau, parlez-nous-en.
Bah là, il joue avec elle, voilà. Enfin, on sent, on entend au début de la scène une certaine tension, notamment de sa part à elle. Et là, il ne va pas en tenir compte et il va prendre un drap et il va lui mettre le drap sur la tête, ce qui va déclencher un rire chez elle et donc faire rebaisser toute la tension. Et ce qui va pouvoir amener, d'une certaine façon, à ce début de séduction. Qu'elle enclenche, elle, bien évidemment, puisque elle se trompe, en fait, sur la démarche de Gabriele.
Oui, et puis j'ajouterais aussi que ce jeu de danse, effectivement, qu'on retrouve dans la séquence que vous évoquez et ce passage avec les draps, contribue aussi à donner une légèreté au personnage de Gabriele qui vient contrebalancer la gravité qui est liée par ailleurs à sa condition et qui éclate pleinement dans le dénouement. Donc c'est aussi un parti pris intéressant dans la construction du personnage.
Oui, régulièrement, parce que juste la séquence avant, c'était dans l'appartement d'Antonietta aussi. Il est en train de jouer comme un enfant. Enfin, il retrouve une légèreté dans cette journée grâce à elle, légèreté qu'il n'avait pas au début de la séquence. Hein. On peut le dire, au début de la séquence, enfin au début de la séquence du film, quelle était son intention ?
De se suicider.
De se suicider, voilà. Donc il passe de « j'ai des intentions mortifères et suicidaires » à un peu de légèreté à travers les pas de danse, avec quand il fait du patin, la trottinette, et puis là, une sorte de jeu enfantin, hein, où on joue à se cacher, hein, cache-cache, etc.
Oui.
Absolument, oui. Oui, un sens ludique en fait du personnage et qui participe aussi à l'élaboration de la gestuelle, de l'incarnation physique du personnage. Et ce sont aussi des éléments de jeu qui ont été repris dans l'adaptation de L'île aux bords, hein, justement joué à son tour par Roche Dizem. Mais là aussi, on a des éléments qui sont constitutifs du personnage.
Alors que, pour l'essentiel, le personnage d'Antonietta reste dans la gravité tout au long du film.
Oui, tout à fait, oui. Même l'étreinte entre les deux qui vient plus tard, c'est une étreinte, c'est pas du tout une étreinte sensuelle d'une certaine façon, c'est davantage une manière de se réapproprier une sexualité, ou en tous les cas sa sexualité, et sortir du cadre de la sexualité dominante acceptée par le fascisme. Donc elle garde jusqu'à la fin cette gravité. Mais lui, en même temps, ce qui est intéressant dans le personnage de Gabriele, c'est que nous, spectateurs, on sait une chose qu'Antonietta ne sait pas, c'est-à-dire ce que vous avez dit tout à l'heure, cette tentative de suicide. Et à la fin du film, on découvre seulement les raisons de cette tentative de suicide, c'est-à-dire sa déportation, une déportation que lui, bien évidemment, il connaît depuis le départ. Ce qui explique finalement son état d'une certaine façon tout au long du film, c'est-à-dire que c'est la dernière fois où il va pouvoir s'offrir cette légèreté.
Merci à tous les deux, merci à Diane Bracco et Arnaud Duprat pour ces échanges autour des deux comédiens, ou des deux binômes de comédiens, hein, Sophia Loren, Marcello Mastroianni, puis Laetitia Casta et Roche Dizem. Et puis nous nous retrouverons pour de nouveaux épisodes. Au revoir à toutes et à tous.